Libradio, www.libradio.org. Une radio crépusculaire, noctambule et nyctalope. Libradio, des ondes qui reflètent et réfléchissent, et qui laissent entendre. Vendredi 24 août 2018, au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève, à la nuit des chauves-souris.
Voilà, nous voici de retour dans les conditions du direct depuis le Muséum d'Histoire Naturelle ici à Genève à l'occasion de la 22e édition de la Nuit des Chauves-Souris avec ce petit jingle dédié qui reprend ses sons vintage de la série dessins animés aux États-Unis, Batman, évidemment des années 60, je dirais comme ça. À la louche, alors nous accueillons Pascal et Alexis. Alexis et Pascal, bienvenue à vous. On est ravis de terminer en guillemets cette émission avec les deux parmi les initiateurs de cette Nuit des Chauves-Souris qui existe donc depuis 22 ans, puisque c'est la 22e édition ici à Genève. Alors, peut-être voudriez-vous tout d'abord vous présenter vous-même à l'aune de ce que vous faites au sein du CCO. Et puis ensuite, eh bien, je vous interrogerai quand effectivement, voilà, d'où est venue cette idée d'une nuit entière consacrée à l'étude de ce petit mammifère. Qui voudrait commencer? Peut-être Pascal.
Voilà, alors bonsoir, merci. Bonsoir. C'est vrai que ça fait plaisir, à 22 ans, et ça s'use pas, c'est marrant. Hein, on fait pas mal de choses dans l'environnement, et là, tout à coup, on a un événement qui retient toujours l'attention de la presse, des publics. Donc il se passe quelque chose de bizarre. Alors c'est quoi ce bizarre? C'est que tout simplement, on adore voir les animaux, mais je pense qu'on adore aussi modifier ce qu'on appelle les représentations collectives qu'on s'est construites, les préjugés. Il y a tout un cheminement. Alors on le fait soi-même durant sa vie, dans une soirée. Mais nous avons tous fait ce cheminement depuis 30 ans en Suisse. Animal menaçant qui tout à coup devient aujourd'hui un animal menacé pour la population. On a eu quand même la bonne idée, je pense, c'était une bonne idée de faire des analyses de présentation collective avant d'agir. Mmh. Et là, vous avez un basculement, c'est-à-dire que tout à coup, vous avez un animal, on se dit toujours les représentations collectives, ces choses sont très rigides, elles ne changent pas. Je vous assure qu'autour de cet animal, on a assisté sur les 30 ans à un basculement.
Très bien. Et à quel moment et selon toi, pour quelles raisons?
Alors, il y a toujours plusieurs facteurs qui se combinent. Il faut que des gens s'y mettent, sachent convaincre. Il faut de l'argent, parce que quand vous promettez, vous faites des actions, il faut que ça suive. Actuellement en Suisse, pour la protection des chauves-souris, c'est à peu près 1 million qui est donné par la Confédération et les cantons. Pour les 30 espèces, c'est pas énorme, hein, parce que les chauves-souris, c'est le tiers des espèces de mammifères sauvages de la Suisse, donc ça pèse qu'un tiers. C'est quand même un tiers des actions de biodiversité des mammifères, quoi, 1 million, bon. Et il y a en même temps quand même une prise de conscience écologique et environnementale. La chauve-souris accompagne ce grand mouvement nature en ville. Avant, on disait, ouais, il y a d'un côté la nature et le monde sauvage, le parc national. De l'autre côté, il n'y a pas la nature. Voilà, il y a un animal qui échappe totalement à ce genre de catégorisation. Il y a les technologies qui font que tout à coup, ce qu'on ne pouvait pas voir, une image de chauve-souris grâce maintenant quand même aux nouvelles technologies de photos ou de caméras. Tout à coup, vous voyez des animaux d'une beauté. Avant, c'était des machins à moitié flous. Donc, vous avez de la technologie, vous avez des consciences collectives, vous avez un besoin de société, puis tout à coup, ça devient un symbole dont on s'empare, comme une, peut-être tout à coup le jazz s'impose, hein, ou le rap. Donc, il y a un côté totalement à cheval entre science et culture. Et nous, notre passion depuis 30 ans, c'est ce qu'on appelle les bioindicateurs culturels. On est persuadé que c'est dans la tête des gens et dans les comportements que va se jouer la biodiversité de demain. Et c'est un exemple qui montre à quel point ce qu'on pense d'un animal, comment on se le représente, dessine, écrit son avenir.
D'accord. Voilà. Très bien, très bien. Eh bien, pour une première réponse, des premières explications, c'est déjà pas mal exhaustif. Alors, dis-moi, Alexis, toi qui as rejoint... Enfin, qui est né finalement dans le bain, mais peut-être qui a un autre âge. Est-ce que toi, tu as été, es-tu d'ailleurs touché par justement ces représentations de la chauve-souris extrêmement lointaines de la réalité? Est-ce que je veux dire par là, est-ce que avant de t'intéresser rationnellement à ce mammifère, à ce chiroptère, eh bien, est-ce que tu en as d'abord vu des représentations qui sont celles du super-héros, de Batman, de la BD ou de choses comme ça?
Alors, oui, c'est une très bonne question. Alors moi, du coup, vu que très très jeune, j'ai été un peu confronté à l'animal, j'ai pas eu vraiment le temps d'avoir cette représentation négative. Parce que très tôt, on m'a expliqué ce que c'était. Très tôt, on m'a cassé les mythes, finalement, qui ont la peau dure. Hein. Par exemple, la chauve-souris qui se prend dans les cheveux, la chauve-souris qui suce le sang, etc. Très, 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 très tôt, on m'a enlevé ça. Donc, j'ai pas eu le temps, en fait, de me faire une mauvaise connotation. Après, des images, bien sûr, la chauve-souris Batman, mais du coup, c'est presque plus une image un peu positive. Donc, je crois pas que j'ai eu le temps d'avoir la moindre image négative. Et à ce niveau-là, je suis assez chanceux, en fait.
Ouais, du coup, tu t'en es sorti sans trop de mal.
Ouais, exactement.
Parce que c'est vrai qu'on observe que dans les représentations, au travers des géographies et des civilisations, la chauve-souris peut et être un animal connoté extrêmement négativement, extrêmement positivement, ou alors, pourquoi pas, même positivement.
Bah oui, en Chine, un fou, bonheur, chauve-souris. Bon. Voilà. Donc, on construit l'image, en fait... Plus qu'on le pense souvent, on construit ce qu'on voit et l'objectivité dans ce cas-là, c'est quelque chose, il y a cette célèbre anecdote d'un bateau que des gens n'arrivent pas à voir parce qu'ils ne peuvent pas concevoir un tel bateau, etc. Donc ça fait une présentation collective, c'est trois choses, c'est une attitude, j'aime pas, c'est des savoirs encyclopédiques et puis plus important, plus difficile à comprendre, c'est ce qu'on appelle le champ de la représentation, c'est quand vous donnez le mot sur quoi vous pensez, vous faites un lien. Alors c'est vrai que la chauve-souris, moi j'adore l'histoire de Batman, tout ça, on était obligé aussi de suivre Bram Stoker.
Bah oui.
À propos, vous avez le premier roman avec un vampire, c'est à Genève, ça a été écrit.
Ah non.
Durant la même nuit, ou les mêmes nuits que Frankenstein, parce que oui, Polidori, c'est la même équipe, ces gars, ils ont 21 ans, 22 ans.
Ah ouais, alors Frankenstein. Alors
vive la Genève, donc on n'a pas inventé qu'un monstre Frankenstein, on a inventé aussi le vampire romanesque. Et Bram Stoker, tout ça, ça vient après. Donc, c'est juste un petit cocorico, je ne vois.
Bien sûr. Non, puis, moi, je ne savais pas. L'équipe non plus, je pense.
Ouais, ça vient pas. Ah oui, oui.
Moi, je ne savais pas.
Ah, non, mais, alors, Frankenstein a écrabouillé ce pauvre vampire de Lord Polidori et Lord Byron. Ouais. Donc, en fait, juste pour dire qu'effectivement, selon les cultures, donc, il faut savoir que, par exemple, en Amérique du Sud, c'est considéré plutôt comme un lien entre le monde des mortels et le monde des vivants. Donc on recherche un rôle immédiatement chez l'animal. Et chez nous, effectivement, tous les animaux nocturnes, de façon très connotée, effectivement, sont dans plutôt des mythologies fort négatives. Quoi qu'il faudrait quand même un peu nuancer. On simplifie, on dit au Moyen-Âge, tout ça. En fait, le Moyen-Âge était beaucoup plus compliqué que ça et beaucoup plus éclairé, le Moyen-Âge, etc. Je pense que nous-mêmes, on se présente aussi le Moyen-Âge aussi faux que certains se présentent, je vous souviens.
Certainement, absolument. C'est bien de le dire et de préciser qu'effectivement, on est toujours... Restons toujours un petit peu sceptiques par rapport à des... Voilà, sorte de vérité comme ça révélée. Concernant, alors justement, cette 22e édition, eh bien, la première, comment s'est-elle passée? Est-ce qu'elle a déjà eu lieu ici au muséum? Et comment est-ce que ça a été perçu quand tu es arrivé avec cette idée en disant « Bonjour, je vais faire une nuit des chauves-souris ».
Écoute, moi, je suis biologiste, je suis hydrogéologue, mais j'ai fait le journalisme aussi. Donc, quand il a fallu faire la première, tout de suite, il fallait plusieurs endroits en Suisse romande. Puis deuxièmement... j'ai choisi un vendredi 13.
Bien sûr.
Donc c'était immédiatement en TV.
Très bien, très bien.
Et c'est une époque où il y avait que la nuit des étoiles. Il n'y avait pas la nuit du rock, la nuit de la science, etc. La nuit, ça a suivi après. Donc on était dans quelque chose d'assez original. Et tout de suite, ça a fait bing dans les médias.
D'accord.
Tout de suite, immédiat.
Il n'y a pas eu besoin de convaincre comme ça, non. Assez facilement.
Et puis, comme on est les premiers, ça a fait bing aussi chez les autres, on est dans le réseau, ça a fait bing dans d'autres pays européens. Ce soir, il y a à peu près 1500 nuits en Europe. Alors, il n'y a pas que les vampires qui sont nés à Genève, il y a aussi la nuit des chauves-souris.
Non, mais c'est intéressant que tu dises ça, parce qu'effectivement, quand on va voir sur le programme, toute la Suisse et au-delà de la Suisse, cette nuit a pris partout.
Donc, oui. Alors, on faisait au mois de juin, c'était vendredi 13 juin, et après, pour des questions européennes, ça a été choisi plutôt vers l'automne. Mais avec du bric-à-brac et du bricolage ici, bon, c'est vrai, c'est un musée, je suis conservateur aussi au Muséum d'histoire naturelle, il y a une ville qui joue parfaitement le jeu, etc. Donc on montre quelque chose qui est comme... Mais vous avez une nuit des chauves-souris, ça peut être une table devant une église où vous avez le curé qui débouche des bouteilles en Valais et puis qui dit ça, c'est la nuit des chauves-souris, vous voyez. Et ça, c'est magnifique. Et donc, en fait, c'est un truc à s'emparer, à copier. Il n'y a pas de label, il n'y a pas de copyright en avant.
C'est vraiment la science pour la science. On distribue, on relaye, on propage, on s'interroge, on discute et on passe des bons moments également. Et effectivement, on
voit
que...
Du lien social, oui.
Du lien, voilà, exactement. Mmh. C'est, alors, justement, ici, on voit... Alors, déjà, merci beaucoup, hein, parce qu'on est reçu divinement bien. On est dans des conditions parfaites pour faire de la radio. Donc, nous, personnellement, on est extrêmement contents. Mais on voit effectivement un Batman qui se promène, qui anime un petit peu le truc. Il y a des chariots qui sillonnent les couloirs du muséum. Et puis, il y a des espaces distincts dans lesquels se passent des choses extrêmement originales. La nuit, enfin le passage dans le noir, toutes ces choses-là. Ça, c'est arrivé assez vite ou bien c'est au cours des années où tu t'es dit, bon, on va plutôt faire comme ça, comme ci, etc.
Alors, comme c'est... quand vous fondez quelque chose qui est nouveau, vous avez toute la liberté. Donc là, il n'y a qu'un truc, c'est la créativité. En fait, le danger, je dirais, de faire comme tout le monde, c'est peut-être maintenant, quand on prend de l'âge et c'est de la routine, puis peut-être tout à coup convenu. Donc, je ne dirais pas qu'on a tout de suite été un peu dans l'insolence. En fait, oui. Dès qu'on a mis en place ce format, c'était immédiatement quelque chose de décalé.
D'accord. Ouais, donc, il y a ce parti pris.
Oui.
À l'entrée
et
déjà.
Et personne ne vous dit rien, vu que c'est nouveau. Ouais. Donc, vous arrivez... la
c'est page, bien, hein,
moi, j'adore quand même... Bon, on est scientifique. On n'aime pas le gazon. On aime plutôt quand le grass est sorti, les premières plantes qui poussent, vous savez, quand il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Puis là, vous avez une totale liberté. Il n'y a pas encore de règlement, etc. Puis après, le succès, c'est que tout simplement, tout ça devienne plus courant, plus partagé. Et là, bien sûr, tout ça se rigidifie, c'est obligatoire. Mais la vague de la gravité, vous devez la chercher à ce moment-là au pas suivant.
D'accord. Ouais. Alors, est-ce que chaque année, il y a un petit fil conducteur, un petit thème, une petite centralité comme cette année concernant justement si, le fait de trouver, de découvrir une chauve-souris?
Alors, une chauve-souris, comme beaucoup d'animaux sauvages, bon, c'est bien, c'est une fin en soi, protéger la biodiversité. Mais le vivant peut être un magnifique ambassadeur de communication pour traiter des thématiques plus générales, révéler, faire des travaux d'Hercule en com, je dirais. Et là, c'est effectivement, vu qu'on a monté une expo, vous avez tu as eu Eric Ashkar avec qui je bosse sur le problème de la pollution lumineuse en Suisse et surtout à Genève, au niveau du Grand Genève, franco-suisse. Donc, on a cette année, par exemple, la thématique. Et là, je regardais un journal, tous notamment les gens de la campagne lisent aussi, pas seulement les urbains, ça s'appelle Terre et Nature, là, c'est première page. La chauve-souris donne l'alerte sur la pollution lumineuse. Donc, en fait, elle sert à révéler, elle sert à rendre visible l'invisible.
Eh ouais.
À substantifier quelque part, mais non pas celle qu'elle-même et le message qui, finalement, a du sens scientifique.
Bien sûr.
Mais qui permet de dire des choses qu'on aurait de la peine à dire sans cet animal.
Il y a une forme de rêve, enfin, de révélateur d'une certaine manière. D'accord. Dis-moi, Alexis, qu'en est-il selon toi? Alors, on l'a compris, on va revenir au contenu, mais là, j'aimerais juste qu'on parle quelques instants du contenant. En tout cas, ce soir, il y a eu beaucoup de monde. Moi, je sais que l'année passée, il y avait également beaucoup de monde. Où est-ce qu'on en est en termes, justement, de visibilité? Est-ce que les gens viennent? Est-ce que ceux qui viennent, ce sont des primo-visiteurs ou est-ce que ce sont des gens plutôt qui reviennent? Et le deuxième volet de la question, c'était concernant ces nouveaux médias maintenant qui nous encerclent. Est-ce que ça, vous en faites également usage ou c'est quelque chose dans lequel vous n'entrez pas, en tout cas comme ça, directement?
Alors, je prends tout de suite pour la fin de la question. Du coup, ça, je pense que les nouveaux médias ne sont pas encore entièrement exploités. Et ça, j'imagine que ça va être quelque chose qui va être petit à petit changé. Il y a une page Facebook qui a été récemment, pour le Muséum d'Histoire Naturelle, lancée, qui devient un petit peu plus vivante. Alors, je ne suis absolument pas impliqué là-dedans, mais voilà, c'est une visibilité qu'il y a. Il y a des gens qui commencent à suivre. Mais je pense que ça va commencer un peu à se développer, hein. Pascal, tu m'interromps si je me trompe.
Oui, mais... alors le truc, c'est comme on fait le réseau chauve-souris, on dit aux personnes, écoutez, si vous avez un problème de chauve-souris, téléphonez. Mais il faut que ça marche. On ramasse, face suffisamment, 900 appels, j'ai une colonie de chauve-souris, etc. Donc c'est le système...
Bon, après, au niveau
toi qui fais de la médecine, tu rigoles parce que tu vas dire 900 appels, c'est pas les 40 000 appels.
Oui, alors ça, oui,
Mais il n'empêche que il faut répondre, etc. Donc en fait, les réseaux sociaux, c'est quand on est comme ça, ou bien on y va très bien, ou bien on n'y va pas. On peut pas bricoler, puis tout à coup se dire tiens, pendant un mois, on fait pas le truc. Donc en fait, parce que nous, ce qu'on recherche le plus avec ces 22 éditions, etc., c'est de ménager une chose qui peut paraître parfois antagoniste, c'est la créativité, mais la confiance. ce qui est promis, ce qui est dit, c'est fait. Mmh. Voilà. Donc, pas d'effet de manche, etc. Mmh. Et donc, les réseaux sociaux, bien sûr, on devrait y aller, mais c'est quand même, soyez objectifs, de coûts de gens. Et par exemple, si vous animez une page Facebook, il faut d'abord modérer totalement ce qui est dit. Ensuite, il faut tous les deux jours. Donc, il faut quelqu'un, il faut de l'argent pour le faire. En revanche, nous, on a choisi pour l'instant de bétonner dans la plus grande bibliothèque chauve-souris du monde, ici à Genève. Hein.
Okay.
Et on a fait un truc. Alors, je vois que tu aimes bien les choses originales. Moi, je me suis dit, merde, on va faire quelque chose qui est dans la pensée d'Ivan Illich.
Ah, ouais.
Alors, Ivan Illich, il était beaucoup pour le troc. Mm-hmm. Donc, on a potentiel. Alors, avec l'UNEP et puis Eurobats, on a fait un truc où les gens me disaient, mais comment ils vont s'en tirer? On a dit, plutôt que de donner de l'argent pour des projets de protection de la nature en Bulgarie, tout ça, on va donner des savoirs. Et vous êtes instituteur en Bulgarie avec une paye de 500 euros par mois. Vous pouvez commander tous les tirs à part que vous voulez, gratos. Ouais. Parce que commander un tir à part, vous êtes instituteur bulgare, c'est 20 euros. Si vous gagnez 500 euros, vous êtes passionné de chauve-souris, votre passion va vous ruiner. Donc c'est la possibilité à tout un chacun, finalement, d'avoir accès à un savoir. Donc ça marche juste l'air. Et ça marche avec Eurobats. Donc c'est presque du réseau. Mmh. Hein, c'est une mentalité complètement inspirée réseau, mais c'est un truc avec du papier et tu serais étonné le nombre de gens qui travaillent dans les pays de l'Est pour diverses raisons. Tout à coup, ils n'ont plus les publications de 1930 de leur propre pays, mais nous on les a. On renvoie. Mais on envoie pas qu'en Europe ou NEP, on envoie en Iran, on envoie en Union soviétique, dans le monde entier, parce que tout ce qui paraît sur les chauves-souris dans le monde, on le prend et on. Donc, on va sur Internet, il y a un truc avec un petit chariot comme Amazon, on clique dessus, sauf que c'est gratuit. Il faut que les gens juste s'inscrivent comme chiroptérologues auprès de Robat, il y en a 2000.
D'accord.
Et donc, c'est ce réseautage. Et ça, c'est de protéger les chauves-souris, incroyablement, parce qu'un passionné, tout à coup, il n'a pas besoin d'être dans une unie à Sofia.
Exactement.
Où il n'a pas besoin de dire, ah ben, il faut que je sois copain du prophète, etc. Il peut y aller.
Vamos. Mais c'est un travail. Un travail énorme, un travail de fourmi.
Alors, c'est le travail. Là, il y a la bibliothèque du musée, donc il y a des fonds pour faire bien le boulot de la bibliothèque. On ne perd pas de trucs, etc., catalogués. Maintenant, développer une idée comme ça, ça peut être fulgurant.
Okay.
Ensuite, il y a des gens qui ont confiance, y compris à la Confédération. Ils disent, tiens, on n'a jamais vu ça, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais comme c'est une grande boîte, quand même, le Muséum de Genève, on se dit, mais s'ils composent ça, c'est du sérieux. Donc là, l'argent vient directement de l'UNEP pour lancer la chose. Et puis effectivement, on peut oser ce que parfois certaines ONG ne peuvent pas oser parce qu'elles ont peur de perdre leurs membres ou bien des bureaux privés qui travaillent. Donc les musées, c'est quand même un creuset où on peut tenter des trucs et si possible des trucs que les autres ne peuvent malheureusement pas encore totalement tenter.
Et puis faire preuve d'audace.
Puis après les passer. Mais on risque pas grand-chose. Hein. On est conservateur, on est payé, etc. Oui, je veux pas jeter la pierre aux autres, mais c'est juste, c'est notre rôle, c'est notre devoir d'inventer et de faire des choses comme ça et de prendre ces risques parce qu'on est payé pour ça.
Ça fait en tout cas super plaisir d'entendre que des personnes sont menées par cette passion-là et par ce désir-là. Alors revenons-en justement aux différents publics. Alors qu'est-ce qu'on observe dans toutes ces années, l'évolution? Est-ce que c'est plus des familles? Est-ce que les plus petits viennent? Nous, on a été extrêmement impressionnés par l'acuité des petits. Ils sont extrêmement curieux et puis ils en ramènent beaucoup parce que nous, on les attrape un petit peu à l'entrée en leur disant « Ah, venez peut-être après quand vous aurez vu des trucs ». Et quand ils reviennent, ils nous ont dit « Oui, alors moi, maintenant, je sais que 3000 insectes sont dévorés par une chose. » Enfin, c'est assez fin, quoi.
Je pense qu'il y a il n'y a pas de meilleur indicateur d'un niveau, d'une exposition, d'un événement. Il n'y a pas de meilleur indicateur que les enfants, en fait, parce qu'ils ont une capacité à tout voir, à tout noter, et surtout, cette capacité à noter les choses qui leur paraissent relevantes. Et c'est un très bon indicateur parce que parfois, il y a des choses qui nous paraissent relevantes que l'enfant ne va pas relever, et au contraire, des toutes petites choses, des tout petits détails qui, d'un seul coup, on se dit « Ah ouais, ça, c'était en fait... quelque chose qu'on a peut-être loupé et que eux ça les intéresse. Donc c'est vraiment très intéressant la population des enfants. Après, au niveau de la population, oui, c'est beaucoup des familles qui viennent avec des enfants. Tu dirais entre quel âge? Je dirais 8, 6 et 8 ans, la plupart.
Des 7 ans.
Ouais, à peu près.
Voilà, donc nous ce qu'on essaye, c'est de pas faire un ghetto, c'est-à-dire qu'on a du plaisir. Par exemple, là, c'était une chauve-souris, il y a quelqu'un qui est venu à l'année de chauve-souris parce qu'il voulait apprendre le français, c'est extraordinaire. hein, ou bien quelqu'un qui est dans une situation, il vient d'arriver à Genève. Voilà. Ouais. Donc, ça sert à ça, les animaux, hein, aussi, avec du lien social, tout ça. Alors, plus ça se mélange, plus il y a des différences d'âge, plus il y a des différences de public, etc. Et moins ils connaissent de trucs aux chauves-souris. Je dis merci à tous ces gens. On a 5000 amis hein, du sort de chauves-souris mais qui nous aident. Mais d'avoir les gens qui... Ou même quelqu'un qui déteste les chauves-souris, qui vient à la nuit des chauves-souris parce qu'il en a peur, ça, c'est génial.
Absolument. Ouais. Tout à fait.
Et après, à l'inverse, on a des gens qui reviennent chaque année, année.
Voilà. Alors,
on
a... Donc, il y a quand même les fidèles.
Alors, c'est pas la majorité.
J'ai croisé une dame, elle n'a pas raté une seule fois. Ça fait 21 fois qu'elle vient à la nuit des chauves-souris. Voilà. Elle était là.
Et ça, c'est... C'est génial, c'est des gens qui nous reconnaissent d'année en année, gens qu'on recroise, c'est vraiment génial.
Nous, on est revenus cette année, ça fait que deux, mais on reviendra.
Madame, on peut vous poser une question.
Si vous voulez prendre
ça, la combien fois que vous venez à la nuit du chauve-souris?
Je ne sais rien, mais ça doit faire 20 ans que je viens.
Ça fait 20 ans, hein.
Oui, dis donc.
À l'époque, il y avait encore Sando, et puis il y avait David, Berti, et toute cette bande-là. Et puis c'était en haut à Schönbourg.
C'était à Schönbourg, oui, exactement.
Et puis on allait le long de la Sema, on allait... Oui.
Et c'était à la place Favre avant.
Ouais, ok, ok. Ouais, long de la Sema, ouais, c'est génial.
Ben voilà, je parle de madame, puis elle passe...
ça tombe bien, hein, dis donc. Bonne soirée, madame.
Il y a quand même des trucs magiques avec
chauve-souris. C'est incroyable, oui. Alors, dès le début, il y avait cette volonté de décentraliser, c'est-à-dire d'avoir cet événement vraiment un peu partout.
Parce que le centre est décentralisé. Vous ne pouvez pas parler d'un animal sauvage qui a la bonne idée de se reproduire dans l'habitation, je dirais en Valais comme on le fait à Genève ou comme on fait dans le Jura. Ouais, donc en fait, donc le centre chauve-souris, c'est aussi le premier réseau décentralisé où on a dit plutôt que faire un grand institut quelque part où il y a et puis après il y a les amateurs. On a cherché dans les jeunes biologistes un réseau de correspondants régionaux pour faire quelque chose qui permet de la communication de proximité. Où le gars, il fait tout. Hein. Alors, comme c'est des bons biologistes, il faut de la recherche scientifique, mais il faut aussi de l'intervention. Donc, ils mélangent les genres, mais ils sont du coin. Le gars qui intervient en Valais ou la fille, ils sont du coin valaisan, ils parlent patois. Voilà. Donc, c'est très important pour un animal qui est si proche de l'homme.
Effectivement. Et là aussi, si on en revient aux représentations qu'on peut avoir de l'animal, il suffit que ces personnes-là aient peut-être eu vent d'un conte local si ça se trouve même une comptine qu'on leur chantait quand ils devaient s'endormir ou quoi. C'est vrai qu'on peut...
On a fait l'année passée un bistrot chauve-souris à Yvelines. On fait même pas Yvelines, au-dessus à Villa.
Okay.
Où on a fait donc comme un menu et on a parlé des chauves-souris, et bien sûr le catalogue est parti en patois valaisan. C'est les leurs. En fait, les animaux sauvages appartiennent aux gens qui les côtoient.
L'année prochaine, ce sera donc la 23e édition. Est-ce que quelles aspirations, vers quoi est-ce que vous aimeriez aller? Est-ce que vous pensez que le format, que l'écrin est celui-là et qu'il restera plus ou moins celui-là? Ou est-ce que vous dites non, mais tiens, on va faire un jour de plus un de ces cases, ou alors on va encore faire d'autres trucs? Enfin, comment vous placez-vous par rapport à l'aune des prochaines éditions?
Ce qu'il faut voir aussi, c'est que déjà le format muséum, c'est un format qui est relativement nouveau. Donc, on est encore, c'est la troisième année?
Un peu plus, parce qu'avant, c'est vrai qu'on allait sur la place à Schönbourg, on a bougé, etc. Là, on est à un moment muséum, donc on va à un moment donné aussi changer.
Ouais.
Mais j'aurais presque envie de tenter un nouveau truc. avec le musée, j'y bosse,
etc. C'est pour ça que j'ai posé la question. Je me suis dit, un personnage comme ça, il y a là dans le coin à gauche, c'est fermé à clé, il y a certainement.
Oui, mais il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore.
qu'est-ce que ce serait
On n'a pas le temps. Je pense qu'on pourrait aller, on parle des nouvelles technologies, dans un format de plus grande proximité, le public est prêt à finalement peut-être aller en plus petit groupe avec une aventure. Et vous avez des formats de technologie, vous pouvez donner maintenant une conférence au fond d'une clairière avec tous les trucs. Donc, comme on a fait aussi, j'ai adoré, on a fait Very Bad Trip sous le pont Butin avec... avec, je ne sais pas si vous avez
le
suivi.
Le pont Butin. Non, mais
alors,
je
on a fait,
vois
on
la
a
zone.
Fait, alors, donc, on a fait 5 représentations chauve-souris. Alors c'était avec on a commencé dans Tigel avec Klinder qui jouait la musique. Et puis on travaillait avec donc des espaces de théâtre et on a fait un truc voilà. Voilà. Alors
génial.
Ça c'était, on était, ouais, ouais, mais c'était complet. Hein, c'est l'année passée, c'était complet, 5 représentations. Boom, ouais.
Ah ben.
Et je dirais que c'est des expériences nouvelles. Mais là, tout de suite, j'ai le titillage, là, des Français, parce que je bosse beaucoup aussi en France, qui viennent, les salines, machin, il y a quelqu'un du ministère qui vous envoie un mail en France. Vous voyez, ben, donc, il y a de la créativité alors, dans tous les sens.
C'est peut-être la chose la mieux partagée, la créativité, au bout du compte. Hein, dès qu'on se défait peut-être de ces poids, de ces carcans,
oui,
si on voit que chez tout le monde...
Oui.
Y a-t-il comme ça des anecdotes absolument, comme cette dame-là qu'on vient de voir, tout au long de ces 22 éditions, des questions vraiment farfelues ou des personnages qui ont accouru?
Alors, oui, il y avait 2-3 personnes et des gens effectivement qui tout à coup ont une passion dévorante pour la chauve-souris. Donc vous avez des gens qui ont un esprit de collectionneur.
Ah ouais.
Moi j'ai vu des gens phobiques qui sont venus pour voir s'ils pourraient pas guérir ça.
Souvent les parents, c'est un truc qu'on retrouve souvent avec les parents, c'est les enfants veulent voir la chauve-souris et les parents sont vraiment, moi je suis là parce que on m'a demandé de venir, mais je déteste les chauves-souris. Et c'est une super bonne occasion de discuter justement avec ces phobiques des chauves-souris. Moi, ceux que j'ai croisés, c'était toujours des parents avec des enfants.
Oui, parce que le stand, tu avais en fait des animaux. Combien d'humains es-tu
oui,
entre
alors ça,
un éléphant, un crocodile, etc. Puis la chauve-souris, bien sûr, c'est faible. Hein, oui,
donc, oui. On est à zéro
les
statistique.
Les requins, c'est pas terrible non plus. En revanche, le moustique et le palu, ça y va. Hein.
Voilà, ça, c'est le, ça, celui-là, c'est le numéro 1. Donc,
donc c'est même thérapeutique. Ces nuits de la chauve-souris ont vocation thérapeutique.
T'avais même un petit soldat, puis lui tue pas mal aussi. Hein.
Alors,
le petit soldat humain.
C'est des chiffres sur lesquels je me risque pas, mais on est effectivement à 500 000 personnes tuées directement par an. Par un autre être humain. Puis ensuite, quand on compare aux requins, c'est environ 10 personnes. Enfin, c'était un peu ça l'idée.
Les proportions.
Voilà. Après, la difficulté, c'était de transposer ça de manière un peu didactique, ce sujet un peu morbide. Et ça, je crois que, bah, encore une fois, c'est les enfants qui font tout. Quoi. C'est un stand qui tournerait difficilement sans les enfants, par exemple.
Oui.
D'accord. Et alors, revenons-en à cette nuit. Justement, il y a énormément de gens qui sont mobilisés. On a assisté tout à l'heure à la réunion de l'animation. Ça veut dire qu'il y a
Il y a Cédric là, c'est lui qui fait tout.
C'est pour
vous l'avez déjà, tu l'as déjà
mais
vu.
Non, mais Cédric, graphiste si par illustrateur, hasard,
c'est Monsieur Image Total. Dis de bon parce que
c'est avec lui bah, qu'on a échangé le mail du le logo.
Toute la com communication. Voilà. Du Batman, tu l'as eu
Non.
Alors lui,
non,
alors il connaît tout sur Batman. Donc c'est ça qui est terrible. C'est complexe, ça Batman.
Ah bah.
C'est né juste avant la Deuxième Guerre mondiale, etc.
Oui,
il connaît tout. Alors c'est absolument.
Tu sais, on est encore plein d'années. On va venir.
Cédric, alors lui, il fait l'image.
Alors exactement.
Oui.
Alors, le
avec un micro, c'est gravé.
Alors déjà, bienvenue Cédric, vous êtes en quelques mots te présenter. Quel est ton rôle?
Donc, alors moi, je suis Cédric Maranda, je suis graphiste illustrateur. Moi, je venais ici enfant dessiner d'ailleurs beaucoup les animaux. Et puis moi, j'ai travaillé beaucoup pour le WWF, puis aussi des organismes de protection de la nature, ou même la déclaration de Berne, etc.
Ah, très bien.
J'étais indépendant pendant très longtemps. Et puis j'ai commencé à enseigner il y a quelques années aussi aux arts appliqués. Et puis on s'est rencontré avec Pascal, c'était une chouette rencontre où on a commencé à travailler sur les chauves-souris, à faire ses illustrations, ses premières affiches ensemble. On a travaillé très longtemps ensemble en tant qu'indépendant, enfin moi indépendant et Pascal évidemment chercheur et au muséum. Et puis ben, ça fait 2 ans que je suis intégré au musée. Et puis voilà, c'est une belle expérience pour moi, assez nouvelle parce que j'étais pas habitué, enfin j'ai plutôt habitué à travailler seul, donc là tout d'un coup ben, j'ai toute une équipe autour de moi, mais c'est passionnant parce que évidemment ben, je fais du graphisme, de l'illustration, mais aussi je rencontre plein de gens et dans les bureaux autour de mon petit bureau, ben, il y a des gens passionnants. Alors je fais un peu de minéralogie, un peu de biologie
génial,
marine, un petit peu de ben, les chauves-souris évidemment. Puis c'est vrai qu'on apprend, pour un graphiste, un illustrateur, on apprend plein de choses. Et puis non, c'est vraiment une belle expérience.
Bah, tu vois, nous à la radio, c'est un peu pareil. On écoute les gens passionnés et on essaie de faire un peu nôtre un morceau des passions qui les habitent. Et c'est un énorme plaisir. Concernant la chauve-souris, l'imagerie de la chauve-souris, du coup, pour toi, tu l'as vécu comme un challenge ou tu te dis c'est une chance parce qu'effectivement, on pourrait peut-être décliner ça à l'infini. Et est-ce que tu t'inspires, toi aussi, des différentes représentations au fil du temps qui ont pu surgir de l'esprit des gens concernant
Moi, j'ai découvert les chauves-souris donc avec Pascal. Okay. Alors évidemment, j'ai découvert aussi qu'en fait, elles étaient utilisées dans plein de domaines, que ce soit le cinéma, l'illustration, les affiches de propagande. Alors évidemment, tout d'un coup, ça ouvre à tout un monde que je ne connaissais pas, un chauve-souris, ou très peu comme les gens, le commun des mortels. Et puis là, évidemment, ben, c'est clair que j'ai appris beaucoup sur ces animaux et puis évidemment sur la manière aussi de présenter certains animaux au public, etc., pour que les gens aient une vision un petit peu différente d'animaux comme ça qui avaient un historique un peu péjoratif, etc. Mmh. Donc c'est vraiment intéressant de... Mais ça, je ne suis pas un spécialiste des chauves-souris. Moi, je m'intéresse un petit peu à tout. Et puis chaque fois que je travaille sur un sujet, je le découvre. On pourrait dire ça. D'ailleurs, j'ai une bibliothèque énorme de livres. Pendant très longtemps avant Internet, j'ai acheté des livres pour me documenter. Je ne les ai pas forcément tous lus, mais tous vus en tout cas.
Alors, comment
une bibliothèque, bibliothèque d'images comme ça, très importante.
Une base de données, finalement.
Une base de données, on pourrait dire ça comme ça. Ouais.
Comment est-ce qu'on décide de... Alors, typiquement, en tout cas, moi, j'ai observé, bien entendu, attentivement l'affiche de cette année et de l'année passée. Comment est-ce qu'on choisit les éléments qui composent cette affiche-là? Parce que, justement, il faut que ce soit... attractif, drôle, parce qu'il faut que ça donne quand même le ton que vous, qui après, qu'on l'on va effectivement retrouver ici. Alors voilà, comment est-ce qu'on se dit, voilà, on va prendre un Batman, mais aussi, alors c'est un travail qu'on fait ensemble.
Il y a quand même un style Marandin.
D'accord. Ouais.
Et puis il y a de la complicité, parce qu'on est en train de travailler sur un tout autre truc, on est en train de rendre visible un micro crustacé qu'on a fait une expo ensemble tout ça. Et puis il y a Philippe Vagneur à la photo, etc. Donc un peu, ça devient un peu comme un groupe de musique. Il y a le bassiste, etc.
Ok. Voilà.
Et puis je pense que Cédric, tout à coup, il part sur un truc qui fait qu'il y a une telle authenticité et puis une idée par rapport à une chose qu'on a discutée. Parce que lui, ce que j'ai pas comme don, c'est qu'il sait voir comment on fait qu'une image soit vue,
eh oui,
qu'elle soit originale, etc.
Exactement, exactement.
Sans perdre son âme et son style. Parce et donc, c'est un espace de créativité. Puis ensuite, on fait ça, il est hyper rapide. Puis bam.
Je suis efficace. Hein.
Tu as l'impression. Puis des fois, on peut discuter en direct derrière l'écran. c'est le fait de bosser. Et alors, on se dit c'est que de l'image. Mais en fait, c'est de l'image qui est plus de l'emballage parce que vu que ça change la représentation, parce que ça va changer la vie. Oui. Donc, il y a Maranda qui va entrer dans l'ADN des chauves-souris indirectement, enfin, ses actions.
C'est peut-être fait mordre. Hein.
C'est pour ça. L'histoire entre culture et nature à ce niveau-là, c'est. Voilà. Et Cédric, c'est vrai que. Bon, tu as une connaissance de la nature incroyable aussi, tu racontes.
Hein, incroyable, par rapport aux biologistes ici, c'est faible. Mais disons que j'ai toujours eu de l'intérêt. Donc évidemment, j'ai peut-être une base par rapport à un graphisme.
Ouais,
mais c'est vrai que je ne suis pas un graphiste traditionnel. Je ne suis pas un féru du graphisme pur, de la typo, etc. Mais moi, j'aime bien créer des images un peu poétiques ou qui surprennent, qui créent une émotion comme ça. Donc ce n'est pas toujours au niveau de la cible exacte. Ce n'est pas ce que je cherche. Mais à créer quelque chose, en tout cas un sentiment chez la personne qui va voir cette image. Les affiches du Grutli aussi, c'était un petit peu ça. C'est-à-dire de théâtre, par exemple. Où des fois, je suis un peu décalé par rapport à la pièce, mais j'aime bien créer quelque chose, et le musée ou ce que je peux faire ici.
Tu avais fait de la série des pièces du Grutli l'année passée.
Voilà, pendant trois ans.
Pendant trois ans, c'est toi qui faisais les affiches du Grutli.
Et c'est vrai que c'était un plaisir aussi. Ça n'a rien à voir avec le musée, mais bon, enfin, y a le lien est là, c'est de créer un peu de...
Ou des aubes musicales.
Des aubes musicales, des bains des pas qui...
C'est tout du Maganda, ça.
D'accord. Bah une des méthodes, c'est de mêler, et peut-être également, de mêler fiction et réalité. Et ce que je veux parler, c'est que si on prend l'affiche de cette année, on a ce Batman avec tout ce que, vers quoi ça nous mène. Et puis, on a la chauve-souris que l'on voit dans la pleine lune, qui est une une chauve-souris vraie, je veux dire. Donc, et puis il y a le musée en bonne place comme socle. Enfin, cette composition de l'image, elle vient pas de nulle part. Alors comment est-ce que tu fabriques ça justement? Est-ce que voilà, un morceau de fiction, c'est toujours intéressant pour justement renverser un peu le sens, étonner un petit peu, attirer l'œil. Et puis ensuite, ben voilà, il y a des éléments qui sont stables et en socle.
Alors là, je ne sais pas, l'affiche de cette année de laquelle on parle, c'est
celle
l'affiche
du programme. C'est vrai qu'il y a eu un travail d'équipe aussi avec Philippe, et puis tout à coup, boum. Puis c'est vrai que c'est hyper rapide de l'exécution.
Mmh. Donc on mélange des photos de chauves-souris à des images où il n'y a pas de chauves-souris, non, parce que c'est très difficile. Et l'idée, c'est de mettre des chauves-souris peut-être dans des environnements où on n'aurait pas l'habitude de les voir. Voilà. Ou en tout cas, évidemment, on aurait plutôt tendance à mettre des chauves-souris près d'un château. Voilà. Et puis c'est vrai que pour sortir de ça, d'ailleurs j'ai fait des images dernièrement avec des chauves-souris qui volent dans les manifestations d'étudiants à Paris, avec les fumigènes, avec le... Voilà, j'ai proposé ça à Pascal.
Des chauves-souris grévistes.
Des fois, il a un peu... Non, mais l'environnement, de tout d'un coup, de sentir ces
animaux... Non, mais j'avais peur qu'elle ramasse un pavé, tu vois, c'est ça. Ouais.
Elle mange des pavés.
Ouais, ou les prennent et aillent...
Elle les transporte quelque part.
Parce que
mon grand-père me faisait chasser la chauve-souris. Oh. Je devais emballer... Enfin, c'était surtout pour que je lui foute la paix un moment. Je devais emballer un caillou dans un mouchoir, je lançais le mouchoir, enfin on devait lancer le mouchoir. La chauve-souris croit que c'est un insecte, prend le mouchoir, elle tombe avec, évidemment avec le poids du caillou, et là on peut ramasser la chauve-souris, on peut collecter comme ça les chauves-souris. Donc j'ai passé des heures à faire ça, évidemment ça ne marche pas, mais il a pu fumer sa pipe tranquille.
Ah mais c'est des voilà, plein d'anecdotes. Comme je disais, School pour plus tard, donc avec Eric Lidec, Amstram Grab, donc on a fait une coproduction. Mais c'est incroyable parce que ça ouvre. Mais c'est pas juste pour rigoler, l'imaginaire, c'est plus qu'on ne pense qui se joue dans l'imaginaire.
Ouais, absolument.
On aurait quelqu'un d'autre que Cédric, ça serait vraiment embêtant, quoi. Donc, il faut y aller, il faut justement aller sur la question de nature. Et comme disait un collègue,
je suis assez proche, j'habite tout près, donc c'est pratique.
je vais dire ce que dit toujours un collègue, un petit peu, il dit ne soyons jamais trop scientifiques.
En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vrai travail d'équipe et une réflexion d'équipe qui se matérialise. Et ça, c'est très bien d'arriver à proposer un sujet extrêmement sérieux dans son traitement, c'est-à-dire qu'il est documenté, sourcé et tout, mais d'avoir une forme justement qui puisse être extrêmement accessible et drôle.
La technique, hein.
On réfléchit beaucoup, mais après, en fait.
Il y a figure imposée, figure artistique, il faut les deux. Hein, absolument. Mais la radio, c'est la même chose. Hein. Vous êtes une équipe.
Moi, je n'aime pas trop, mais voilà. D'autres... Non, oui, c'est pile la même chose. On va devoir doucement s'arrêter là parce que malheureusement, nous, on est en bus, on est en transport public, on aime bien, mais le mobiliser nous prend du temps.
J'ai peur de minuit. Donc,
Et puis,
craignez de passer minuit avec les chauves-souris.
Voilà, parce qu'on a... Non, moi, je suis aux grottes, donc au parc Beaulieu, il y a des envols de chauves-souris fantastiques. Juste pour qu'on termine pour cette édition, de toute façon, se retrouver l'année prochaine et peut-être pourquoi pas avant. Il faut dire qu'il y a un deuxième jour, que demain, il y a des activités qui ont lieu un petit peu partout, encore concernant la nuit des chauves-souris.
Oui, tout à fait. Chaudiboulin, Neuchâtel, c'est sympa comme coin. Les gorges de la Reuse, etc. Ouais. C'est pas comme tout.
Et toutes ces infos, on les trouve. Alors nous, on a mis le lien sur notre site internet.
Et tout est gratuit, encore une fois. Donc vous y allez, c'est un principe qu'on applique, gratuité. Ouais. Et puis c'est une manière aussi de montrer que quand on décentralise quelque chose, les gens savent quand même se coordonner. Quand on avait fait la 20e, on avait tous un gâteau qu'on a soufflé en même temps. Et la Confédération s'est dit, mais ils savent quand même s'organiser, ces gens.
Très bien. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la nuit des chaussures? Certainement une prochaine édition et d'autres encore, mais a priori on peut dire que de toute façon certainement que les éditions successives auront lieu. Il n'y a aucun souci de ce côté-là.
Normalement, vous avez un animal qui vit 30 ans, il faut tenir la longueur. Donc, c'est son environnement, c'est plus du marathon qu'un 100 mètres. Donc, normalement, il faut et je dirais que c'est un animal, si vous relevez le pied, ça ira mal. Donc, il faut rester à côté.
Très bien. Le mot de la fin, peut-être que vous auriez envie de terminer par une petite déclaration.
Alors, moi pas spécialement, mais peut-être toi, tu veux rajouter quelque chose.
Oui, je... du coup, pour terminer, c'est toujours difficile, hein, ce mot de la fin. Moi, je suis un peu biaisé, mais je crois qu'on peut souhaiter qu'une bonne santé à la nuit de la chauve-souris. Et enfin voilà, moi, je suis très biaisé vu mon lien avec cette nuit de la chauve-souris, mais il y a vraiment une essence en fait qui continue. Et
pour la suite, bah, je sais pertinemment qu'elle va continuer de se renouveler, elle va continuer de se métamorphoser. Et ça, voilà, bah, je souhaite que ça continue sur cette ligne. Et vu l'équipe actuelle, ceux qui prennent la relève aussi derrière, voilà, ça va continuer et puis on va finir là-dessus.
Super.
Et merci, nous aurons beaucoup. Qu'un slogan, n'hibernons pas avec les chauves-souris, c'est ça, oui.
N'hibernons pas avec les chauves-souris. Merci Cédric beaucoup, merci Alexis beaucoup, merci. Et Pascal, merci. Et puis à l'année prochaine au moins.
Au grand plaisir.
Bonne soirée à vous. Voilà. Eh bien, nous, on termine l'émission en remerciant, comme d'habitude, toute l'équipe de Fréquence Banane à Lausanne et à Genève. Et puis, pour les émissions habituelles, c'est a priori la tranche horaire du samedi 14-17h. Et puis, de temps en temps, on dépasse. Typiquement, la semaine prochaine, il se peut que le vendredi soir, nous serions à l'API, l'Association pour le patrimoine industriel, pour une exposition sur des banderoles qui en disent long sur la condition humaine et nos aspirations. Allez, ciao.